formé un binôme, donc avec Philippe, Philippe Hoffmann, que vous connaissez tous, hein, les piliers de ce séminaire, et puis avec Thomas Gué. Alors, Philippe, vous êtes présenté,
oui,
on va faire ça en
anglais russe.
Voilà.
Oui, et nos deux amis vont parler des noms divins chez Proclus. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu piquant dans ce titre qu'on attendait plutôt rattaché au pseudonyme, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu volontaire dans cette formulation. Philippe, passe la parole pour le second état de la.
Alors. Pour une fois, je parlerai brièvement, plus brièvement, beaucoup plus brièvement que d'ordinaire, pour présenter le programme, parce que l'exposé sera fait principalement par Thomas Gué, qui est normalien, agrégé de philosophie et étudiant à l'école pratique des hautes études. Il est à la fois médiéviste et sa curiosité l'a conduit du côté de Proclus et du néoplatonisme, et il prépare avec moi un diplôme de l'école pratique des hautes études qui est consacré à la question de la prédication des caractères divins. Il précisera les choses dans un instant. Dans la section Théologie platonicienne, livre 1, chapitre 13 à 29, que l'on décrit souvent de manière rapide, si vous voulez, comme traité des noms divins, la communis opinio étant que ce texte est une sorte d'anticipation ou de prodrome, si vous voulez, du traité sur les noms divins du pseudo Denis l'Aréopagite. En réalité, il n'y a plus que des différences. Alors, au début de l'année, dans le programme, cet exposé est placé sous mon nom, mais j'ai trouvé tout à fait absurde, n'est-ce pas, de me parler des plumes du pan, c'est-à-dire de parler à la place de Thomas, qui connaît les choses bien mieux que moi. Et ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes rencontrés pour bien convenir de la structure et du contenu du propos, et c'est avec le plus grand plaisir, évidemment, que je le laisse parler à ma place, non pas sous mon contrôle, mais à ma place. Et en ce qui me concerne, je voudrais, à titre d'introduction très brève, commenter avec vous un document que, en général, on ne regarde jamais très sérieusement et qui est extrêmement intéressant, qui vient de vous être distribué sous forme de photocopie, qui est la collection des Kephalaya du livre 1 de la théologie platonicienne. Et cette collection de textes extrêmement brefs mérite d'être lue. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que lorsque l'on examine la tradition manuscrite de la théologie platonicienne, qui, vous le savez, dont l'édition est fondée essentiellement sur deux manuscrits qui portent les signes P et V dans l'édition Historique Saffray, le manuscrit P étant le manuscrit de Paris grec 1813 et le manuscrit V étant un manuscrit de la Bibliothèque Vaticane grec 235. Lorsque l'on examine donc la tradition manuscrite byzantine de la théologie platonicienne, sur laquelle vous avez un modèle d'étude. Je vous renvoie dans l'introduction à la page 151 en chiffres romains, qui vous donne le stemma codicum, qui est un magnifique stemma bifide, dans lequel vous avez la position des manuscrits P et V, respectivement, des 13e et 14e siècles. Eh bien, on ne trouve pas d'intertitre dans le texte lui-même, il n'y a pas d'intertitre, il n'y a pas de segmentation en sous-parties qui serait en quelque sorte indiquée par des titres, et notamment il n'y a pas de césure particulière entre le chapitre 12 qui, nous allons le voir, porte sur la fonction clé de voûte du Parménide, et le chapitre 13 avec lequel commence le soi-disant traité des non-divins. Alors, qu'est-ce que l'on appelle Kephalaïa ? Le Kephalaïa, c'est un terme grec ancien, ce sont des formes brèves, des textes qui correspondent à ce que l'on pourrait appeler un sommaire. C'est un sommaire, c'est plus qu'un titre. C'est plus qu'un titre, c'est un peu moins qu'un résumé, c'est vraiment une forme brève exprimant le point essentiel d'une unité textuelle. Et ces kephalaïa sont assez mystérieux dans leur origine. Il y a une note extrêmement intéressante dans l'édition Saffré d'Estorine, qui est à la page 129, qui nous donne une bibliographie sur ce que l'on appelle Kephalaïon, un sommaire des matières principales contenues dans un chapitre. C'est une courte phrase exprimant aussi fidèlement que possible le contenu du texte, les thèses établies, les principes mis en jeu, les sources utilisées, la méthode suivie. La pratique consistant à faire précéder un texte scientifique ou philosophique, notamment de Kephalaïa, est une pratique ancienne. Mais cela ne signifie pas, on n'en sait absolument rien, que les Kephalaïa aient été rédigés par Proclus lui-même. Disons que, selon toute probabilité, étant donné la grande pertinence de ces textes, on ne peut exclure qu'ils soient très probablement anciens, dû à un éditeur, un des premiers éditeurs, dû à un lecteur néoplatonicien, on n'en sait absolument rien. Ce que l'on sait, et la note de Saffré-Vestorine le rappelle, c'est que nous avons des exemples, d'autres exemples très anciens de traités munis de Kephalaïa. Chez Polybe, Diodore de Sicile, Pline l'Ancien, Olugène. Et il rappelle également que les différents traités constituant la synagogue des doctrines pythagoriciennes de Jean-Luc étaient accompagnés de Kephalaïa, et nous savons que Cyrianus considérait avec vénération, considérait comme des autorités les Kephalaïa qui accompagnaient le De Cogni Mathematica Scientia. Autrement dit, ces textes dont l'authenticité proclienne n'est vraiment pas assurée, donc on peut simplement dire qu'ils ont une authenticité néoplatonicienne antique, sont à prendre avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils peuvent guider notre lecture. Une remarque d'ordre, là c'est l'Hélénis qui parle, qui est très intéressant, c'est leur forme syntaxique. Beaucoup de ces Kephalaïa se présentent comme des questions. Si vous les parcourez, vous voyez immédiatement la récurrence de l'interrogatif tis. Tis, tines, tinas, etc. Mais aussi pose. Comment se fait-il que plus de la moitié de ces Kephalaïa sont introduits par un interrogatif, se présentent comme des questions. Nous trouvons exceptionnellement un titre en péri plus le génitif. Par exemple, à la page 3 de l'édition, le Kephalaïon 24. Peri touteiou, callous, kaiton, stoikeion, etc. Le 26, perito, phaigoni, paradotento, axiomato. Et par ailleurs, certains caractérisent par une description positive, en quelque sorte, de la nature rhétorique ou argumentative du chapitre considéré. Vous avez par exemple, terme évidemment éminemment rhétorique, pour le premier Kephalaïon, le mot proïmion. Vous pouvez examiner également dans la série des Kephalaya 6 et 9, 6, 9 et 12, 6, 9 et 11, 12 plutôt, qui présentent des termes caractérisant positivement l'arx argumentatif. Apalde 6, objection, Lu 6, solution, Ecté 6, exposé ou exposition, Antilobia, refus de réfutation, Apodei 16, démonstration, Scopoi, visée des hypothèses. Donc la forme linguistique est assez intéressante. Alors, l'avantage de parcourir ces quelques pages, mais nous n'allons pas pouvoir les lire, et que ça fonctionne, si vous voulez, je pense que les Kephalaya, étant donné la complexité des textes, il faut penser vraiment à la complexité de fond de ces textes, hein, sans qu'on vient de... Il faut imaginer aussi la difficulté qu'il y a dans des manuscrits anciens, hein, initialement écrits en écriture majuscule, en scriptio continua, avec très peu de signes diacritiques, une absence de titre, l'extrême difficulté qu'il devait y avoir à naviguer dans ce texte. Hein. Nous sommes considérablement aidés par les artifices éditoriaux, la segmentation, les titres, etc. Et probablement, ces Kephalaya faisaient corps avec le texte lui-même pour permettre justement au lecteur d'en comprendre la structure et de pouvoir naviguer, de pouvoir circuler. Celles et ceux d'entre vous qui ont l'expérience des manuscrits anciens, notamment des manuscrits de la fin de l'Antiquité ou de la haute époque byzantine, savent à quel point la matérialité du texte, la manière dont les textes étaient copiés, dont ils se présentaient, requérait évidemment ce type d'adjuvant. Alors, c'est l'occasion, si vous voulez, de nous... je pense que ça avait seulement trois fonctions. Hein. Une fonction très précise, très concrète d'aide à la lecture. Il y avait très certainement simplement des numéros. Des numéros correspondants. Les Kephalaya étaient numérotés, donc selon la numérotation byzantine par lettre, et ces numéros se retrouvaient très probablement dans l'état ancien des manuscrits. Lorsque vous étudiez l'édition de Saffray et Mesterink, vous vous apercevez que dans dans l'état de la tradition byzantine que nous pouvons atteindre, les numéros n'ont pas tous été transmis. C'est-à-dire que je vois par exemple le chapitre 7, eh bien, est normalement numéroté 7A, et le numéro est donné par les manuscrits P et V. En revanche, autre exemple, si vous allez à la page 47 de l'édition Saint-Frère-Vesterine, c'est début du chapitre 11, le Iota Alpha est édité entre crochets obliques, ce qui signifie qu'il ne figure pas dans les manuscrits byzantins. On peut néanmoins supposer qu'il y a eu des pertes au moment de la copie et que l'état ancien du manuscrit comportait les numéros. Donc le lecteur se reportait, faisait une sorte d'aller-retour, si vous voulez, entre l'indication de numéros figurant dans le corps du texte et les Kephalaya, adjuvant à la lecture. Probablement, ces Kephalaya avaient au fond une double fonction, hein, servaient en quelque sorte d'introduction, ça permettait au lecteur d'avoir immédiatement une vision synoptique de l'ensemble du contenu. Finalement, un peu comme nous, lorsque nous cherchons à prendre connaissance d'un livre de la théologie platonicienne, je dirais que le premier bon réflexe à avoir, et de lire les excellents résumés qui sont rédigés par Saffray et Vesterink et qui vous donnent immédiatement une connaissance de l'ensemble. Et par ailleurs, je pense qu'il devait aussi avoir une fonction pour la remémoration. Avant de passer à la lecture du livre 2, il peut être tout à fait utile rapidement de se rappeler le contenu du livre 1. Donc, c'était des fonctions psychologiques importantes. Alors, qu'est-ce que je vais tout simplement vous proposer un petit rappel de la structure du livre 1 de la théologie platonicienne. Tout d'abord, vous avez le proémion, la préface, lis rapidement la traduction de Sapré de Sturin, dans laquelle on détermine le but, le scopos du traité, accompagné d'un éloge non seulement de Platon lui-même, mais aussi de ceux qui lui ont succédé dans la tradition philosophique. Et c'est le fameux texte, le fameux prologue de la théologie platonicienne qui décrit l'ensemble de la tradition philosophique comme l'histoire, non pas de la vérité, car la vérité est donnée tout entière d'emblée dans la révélation platonicienne, mais simplement l'histoire du dévoilement et des périodes d'éclipse de la vérité platonicienne, avec un éloge tout particulier de Syrianus. Et je ne peux pas développer ce point, ce qui est tout à fait frappant dans ce texte, c'est que nous sommes, comment dirais-je, non pas interloqués, mais intéressés par la place réelle, mais quand même discrète, accordée à Plotin. Plotin n'est pas la césure inaugurale de ce que l'on n'appelait pas le néoplatonisme, mais plus simplement la tradition platonicienne. Les grands hommes, pour Proclus, c'est Jambique et Syrianus, de toute évidence. Ensuite, vous avez l'ensemble des chapitres 2 et 3 qui portent sur le tropos to logon, quel est le mode des discours et quel est le genre de préparation par un scolaire des lecteurs. Alors, ce chapitre, et ces deux chapitres sont certainement à mettre en relation avec un traité perdu de Proclus, qui était ce qu'on appelle une synanagnosie, c'est-à-dire un traité méthodologique expliquant les principes généraux de la lecture et de l'exégèse de Platon. Et on retrouve effectivement là un thème, la description des conditions intellectuelles, morales et psychologiques de celui qui doit étudier Platon, un thème qui est très développé dans les introductions, à la philosophie d'Aristote, à la philosophie de Platon, c'est une préoccupation pédagogique typiquement néoplatonicienne. Le troisième chapitre, Tis o kata platona theologikos, quel est le spécialiste en théologie selon Platon, kai poten archetai, kai mekritinon anaïsin hypostaseon, d'où prend-il son point de départ et jusqu'où s'élève-t-il dans la hiérarchie des degrés des réalités. Ce troisième ce chapitre est l'occasion d'expliquer ce qu'est la théologie et de donner une première présentation générale de l'ensemble du système. C'est un texte, je mets l'expérience pédagogiquement, si vous voulez, qui est extrêmement intéressant, extrêmement utile, parce qu'on a en une petite, relativement court, une présentation générale de l'ensemble du système. En réalité, l'essentiel est déjà là. Ensuite, vous avez les tropoi theologikoi. Quels sont les modes théologiques selon lesquels Platon organise la théologie? Alors, c'est la fameuse distinction entre les quatre modes d'exposition: inspiré, dialectique, symbolique, par image, qui sont représentés à chaque fois par des dialogues particuliers. Le mode inspiré, c'est par exemple le Phèdre, le mode dialectique, le Sophiste et le Parménide, etc. Et ensuite, le traité entre dans le détail de la description du corpus platonicien. Kephalaion 5, quels sont les dialogues à partir desquels on doit principalement tirer la théologie de Platon? Alors, ces dialogues qui traitent de théologie sont en quelque sorte une sorte de bibliographie qui est donnée, en même temps qu'une esquisse générale du système. Vous avez une liste des dialogues pertinents, des dialogues dans lesquels on trouve tous les passages théologiques. Et Proclus annonce à ce moment-là un principe herméneutique fondamental qui est la nécessité de construire une harmonie de Platon et des théologiens Orphique Pythagoras, qui correspond tout à fait au programme de Cyrenius, le programme qui, chez Cyrenius, était de toute évidence celui du traité perdu, intitulé Symphonia, Orpheos, Pythagorou, Platonos, Prostalogia, c'est-à-dire harmonie de Orphée, Pythagore, Platon avec les oracles canadiens. Donc vous avez, si vous voulez, un ensemble assez cohérent de chapitres de 1 à 5 qui culminent dans une, au fond, deux listes de dialogues de Platon particulièrement importants. Une première liste de dialogues, une première liste classée selon l'ordre des tropoi, l'ordre des modes d'expression théologique de Platon, et une autre liste dans laquelle les dialogues sont classés en fonction de la hiérarchie théologique. Et à ce moment-là, car le livre est extrêmement cohérent, au chapitre 6 et 12, vous avez une discussion fondamentale. Une discussion qui part du point suivant, et c'est le Kephalaion 6. Objection, apante 6, prosten et plégonon dialogon atroïsin, tes platonikes theologias, os miriken, kai kata tetebakismenen, atimalsus. Objection contre le procédé qui consiste à rassembler la théologie platonicienne en attirant de plusieurs dialogues. Elle méprise, atimalsus, cette théologie comme faite de pièces et de morceaux. Alors, l'idée est la suivante. C'est que Proclus vient de nous donner dans deux ordres différents une liste que l'on peut considérer comme dispersée de dialogues. D'où l'idée qui gouverne l'objection avant le D6, comment peut-on tirer une théologie cohérente de cet ensemble de confettis, hein, c'est-à-dire de fond de fragments épars de ce florilège de textes provenant des dialogues. La réponse Lucis à partir du chapitre 7 consiste à dire qu'il y a non pas une pure et simple dispersion, c'est-à-dire nous n'avons pas une théologie faite de briques et de brocs, mais en réalité une colonne vertébrale, si j'ose dire, un principe d'unité qui est fourni par le Parménide. D'une certaine manière, mais vous ne notez pas ça, c'est exactement le principe de l'arbre de Noël avec des boules. Hein. C'est-à-dire que vous avez un arbre de Noël qui est le Parménide, et puis les boules et les guirlandes constituées en quelque sorte par les membres épars, les textes épars que l'on va tirer de tous les dialogues de Platon. La primauté du Parménide étant ainsi énoncée, ce qui pose évidemment pour l'historien de la philosophie la question très intéressante du rapport entre la structure et les doctrines de la théologie platonicienne et le contenu du commentaire de Proclus sur le Parménide, dont on a parlé plus tôt cette année. Cela étant dit, une discussion s'ouvre au fond sur deux thèmes. Premièrement, la nature même du Parménide et le principe d'interprétation du Parménide, et deuxièmement, son rôle architectonique, c'est-à-dire la façon dont le Parménide présente un exposé scientifique clairement hiérarchisé de la totalité des classes divines. Alors, sur le premier point, les termes du débat s'éclaircissent aussi à la lumière du parallèle avec le commentaire sur le Parménide, c'est la question de la, Luc nous en a parlé, de l'interprétation au fond dialectique ou réaliste du Parménide. Et l'opinion contre laquelle s'insurge Proclus est résumée dans le Kephalaion 9, Antilogia, prostus logikon eignaiton parménidem eifotas, réfutation de ceux qui affirme que le Parménide est logikos, c'est-à-dire que c'est un exercice logique, caïten en auto pragmateam, dit endoxon epicaïramatiken quotidienis, et qui soutiennent que la matière qu'il contient est traitée par des raisonnements qui relèvent de l'opinion. Alors, l'emploi des termes endoxa et aussi de Picaïdematikos, Picaïdema, c'est une argumentation dialectique, fait signe en fonction d'une tradition interprétative que nous nous jugeons plutôt raisonnable, si vous voulez, qui considérait le parménique comme un exercice dialectique. Et c'est évidemment la position contre laquelle s'est construite toute la théologie platonicienne, puisque la tradition platonicienne depuis Cotin part du principe que le parménique porte sur des pragmata, c'est-à-dire sur les réalités divines, sur les réalités transcendantes elles-mêmes. Alors, cette position herméneutique étant affirmée, Proclus donne une sorte d'esquisse générale de la manière dont les hypothèses du parménique correspondent aux différentes classes divines. Par exemple, ce sont les chapitres 10 et 11. Qu'y a-t-il de correct dans l'opinion de ceux qui soutiennent que les hypothèses du parménique sont relatives au principe poignée immanent à ce qui existe, et que faut-il ajouter à ce qu'on affirme en le tirant de l'enseignement transmis par notre maître lui-même? Plusieurs démonstrations relatives aux conclusions de la deuxième hypothèse et à cette vision conformément au degré de la hiérarchie divine, kata, tas, teias, taxes. Et le chapitre 12, porté de chacune des hypothèses, montrant leur enchaînement mutuel et leur accord avec les réalités. Autrement dit, ce petit ensemble de chapitres récapitule ce qui est au cœur de la théologie platonicienne, c'est-à-dire la fonction architectonique du Parménide et l'idée selon laquelle chacune des hypothèses et à la limite chacun des mots dans chacune des hypothèses renvoie à une classe de pragmata divin. Donc, dans cette partie, cette première section des chapitres 1 à 11, j'ai intentionnellement laissé de côté un texte qui se trouve à la page 9 de l'édition Saffré-Westering, page 9, lignes 8 à 19, dans laquelle Proclus annonce le plan général de sa théologie platonicienne. Et il distingue, évidemment, la théologie platonicienne devait être un ouvrage parfait formellement et littérairement, conformément à l'idéal rhétorique issu du Phèdre, c'est-à-dire qu'un ouvrage organique se devait d'être en trois parties, trimeres. Alors, il décrit la première partie qui correspond au livre 1, mais plus particulièrement à ce dont nous allons parler à présent, qui porte, dit-il, sur ta koima panta noemata periteum, sur toutes les notions communes, toutes les notions universelles relatives au Dieu, et sur les axiomata portant sur tous les niveaux de la hiérarchie. Autrement dit, vous avez ici une formule qui, je vais résumer de manière un peu grossière, si vous voulez, qui occupe plusieurs lignes, trois lignes, et qui décrit assez précisément le livre 1 et notamment ce qui pour lui était de toute évidence le cœur du livre 1, c'est-à-dire l'ensemble du chapitre 13 à 20. Ensuite, vous avez ce qui, selon Proclus, est la deuxième partie de la théologie platonicienne, l'ensemble des livres 2 à 6 qui portent sur les ordres divins depuis les intelligibles jusqu'aux hypercosmiques, et puis après, la troisième partie qui est perdue, qui portait sur les dieux individuels, hypercosmiques et encosmiques. Et ça, c'est ce que nous avons perdu. Mais ce qui est très important, c'est de bien se rappeler que, en dépit de l'état imparfait de conservation du texte, pour Proclus, c'était un texte en trois parties, et que ce dont nous allons parler était le cœur de la première partie. Alors, quantitativement, ce sont des parties, évidemment, inégal, mais la structure est celle-là. Alors, maintenant je vais me taire, au chapitre 13 à 29, je vous laisserai le soin de lire les kephalaya, qui résume à chaque fois le thème, vous avez un traité des attributs divins universels, des prédicats divins universels, nous verrons exactement ce qu'il faut en penser, qui en principe, s'ils sont universels, sont destinés à être réalisés à chaque niveau de la hiérarchie, nous verrons si ça marche à tout coup, ce n'est pas sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut attendre le dernier chapitre, le chapitre 29, pour avoir in fine expressément une mention des noms divins, de l'expression des noms divins et une allusion au cratique. Car de toute évidence, il y a une articulation difficile à comprendre, pas pour moi, je pense que Thomas y va plus clair, entre cette partie de la théologie platonicienne et ce qui nous a été conservé comme ensemble de scoli, fragments de commentaires au cratil. Je rappellerai in fine que onoma en grec ne signifie pas nécessairement ni toujours nom propre, que onoma peut signifier aussi évidemment nom commun, et que ce que nous appelons adjectif épithète, ce sont dans la catégorisation grammaticale que vous avez par exemple chez Denis Pras ou dans les Scoli à Denis Pras, ce sont des onomatopes. Donc il faut bien partir de ce que le grec entendait par onoma. Il y avait la distinction entre nom propre et nom commun, évidemment, avec l'influence d'ailleurs de la logique stoïcienne, mais aussi un certain emploi de onoma épithétum qui correspond plutôt à ce que nous appelons adjectif dans la grammaire, en fonction éventuellement de prédicats. Là, il y a, si vous voulez, des considérations logico-grammaticales qui sont assez importantes, qui fait que ce texte doit être abordé à partir de, je veux dire, de la linguistique, la science du langage, qui était celle de Proclus. Donc voilà un peu la position du cadre. Et maintenant, je donne la parole à Thomas, et je vais essayer de récupérer un exemple.
Pour commencer, je tiens à remercier M. Gatté et de leur accueil ce séminaire que j'essaie depuis le début d'année de venir de faire de belles découvertes. Et je leur remercie plus particulièrement de la confiance qu'ils me font, confiant seconde partie de cet exposé. Tout d'abord, je voudrais dire que de l'intitulé même du sujet m'a gêné, en ce sens que effectivement nous avons l'expression nom divin, et il suffit d'ouvrir l'édition Sapa Vestiani de Proclus pour se rendre compte qu'il est question de traiter des attributs divins. Donc il y a tout de suite quelque chose qui m'est apparu, une tension entre l'attribut et le nom, sachant que l'un et l'autre ne semblent pas ouvrir la même signification. En effet, par attribut, on pourrait attendre la bonté, on a plutôt des attributs comme effectivement la bonté à la limite même de l'existence, mais on a, et au contraire, quand on parle de nom, on attendrait Héra, Zeus, etc., comme étant des noms divins, en ce sens que ce sont les noms des dieux. Toutefois, en réinscrivant ce intitulé dans sa tradition, et notamment à Partepos, il suffit de regarder le traité des noms divins de Denis Arrigue, dans lequel on se rend compte que les noms divins sont très précisément l'être, la vie, l'intellect, la bonté. Or, ce qui apparaît ici, c'est que ces noms divins, il ne s'agit pas de noms qu'on aurait dans la tradition juive, Adonai ou d'autres, sont plutôt des attributs. Et Pierre Andrech, qui a travaillé sur cette question chez Saint Thomas d'Aquin, montre que il y aurait, à partir de Denis, un renversement. On passerait précisément de l'attribution de noms divins, enfin, les noms divins désigneraient plus simplement les noms des dieux, mais désigneraient les attributs. Cette hypothèse me semble en fait, on va dire, douteuse, en ce sens que, dans la lecture même du texte de Proclus, il y a plusieurs endroits où on voit que derrière les noms divins, celui-ci place non pas des noms propres, mais des noms, on va dire, des noms communs. Vous avez notamment le texte 1 de l'exemplier sur lequel je retourne. La tradition, la recherche sur les noms divins Et on pourrait dire, si on la retrouve dans les religions monothéistes, ces dernières n'ont pas le nom de Paul. On la trouve notamment à la religion néoplatonicienne, à partir en tête, avant même, au plus, nous trouvons dans le catalogue de la Soudan, la mention d'un traité de Porphyre intitulé Peritheion Onomaton, nous montrant bien que ce thème de réflexion sur les noms divins est aussi inscrit dans cette tradition-ci, et que au plus ne fait que le s'inscrire dans cette. Si nous prenons maintenant la recherche sur les noms divins, il nous faut préciser peut-être autre chose si on vient s'inscrire dans cette tradition-ci, en revenant à Platon lui-même, qui se dote d'une théorie du langage assez forte. Je vous cite un extrait de Cratyle. Cratyle dit vrai quand il dit que c'est de nature que les noms appartiennent aux choses, et aussi que n'importe qui n'est pas un ouvrier en nous, mais cet homme-là seulement, dont le regard est tourné vers ce qui est de nature, et pour chaque chose son nom, homme capable de les appliquer sur des lettres, sur des syllabes, la forme de ces choses. Par ces mots, Socrate énonce une des thèses les plus fortes du platonisme sur le langage, à savoir que le nom dit quelque chose de l'essence de ce que l'on a. Et, pour l'air, l'étymologie, la recherche par la décomposition du nom, est un moyen de retrouver le savoir même des anciens sur la nature des choses. Et cette démarche permet notamment de l'étymologie. On voit par là que la réflexion sur le nom est intrinsèquement liée à la réflexion sur la nature même des choses. Et parler de nom divin, c'est s'intéresser à la nature même du divin. Et en ce sens, je vous invite à regarder le texte 1 de l'Exemplier, qui est en fait la première occurrence, on a la première occurrence dans le traité du terme du vocable onomata. Celle-ci, en fait, n'est pas seulement confinée, au chapitre, de la théologie platonicienne, mais au contraire, celle-ci, est inscrite donc dans cette perspective. Je lis le texte en français. Dans tous les cas, en effet, combien je pense que celui qui possède si peu que rien de sagesse engage ses entreprises en commençant par les dieux. Mais cela convient au maximum lorsqu'il s'agit d'exégèse concernant les dieux, car il n'est pas possible de rien comprendre divin autrement que recevant la lumière par la grâce des dieux. Et il n'est pas possible non plus de faire connaître aux autres le divin si l'on ne maintient pas cette exposition des noms divins au-dessus de la variété des opinions et de la diversité contenue dans les livres. Nous le voyons dans ce texte, Proclus fait la promotion de ce qu'il appelle l'exposition des noms divins. Tenton teion onomaton anelixin, qui consiste précisément à se doter de concepts par lesquels nous aurions une doctrine non adultérée concernant les dieux. Et en ce sens, nous avons un point de jonction entre cette doctrine des noms divins, présentée ici dans ce texte, encore plus comme moyen d'accéder à la connaissance des dieux, la connaissance du divin, de ce qui est Dieu, et ce qu'on appelle dans la tradition antérieure la doctrine des koinon en noai, qui rejoint ce qu'on appelle, ce qui est repris encore plus comme l'expression de noemata. C'est-à-dire, je reviendrai là-dessus, de doctrine qui serait placée, qui serait inscrite dans la nature humaine et par laquelle finalement, doctrine qui pourrait être altérée lorsque l'homme commet des fautes dans une situation de justice, mais qui existerait toujours et qui consiste précisément en cette vérité même sur les dieux qu'il s'agit de retrouver à la lecture des textes de Platon notamment. Nous le voyons, d'une certaine manière, les noms divins, déjà chez Proclus, la question des noms divins lie à la fois celle des attributs, au sens large, et celle des noms divins. Pour commencer, mon exposé sera divisé en trois parties. Dans un premier temps, je présenterai un exposé général du traité des attributs divins. Tant dans l'économie générale de la théologie platonicienne, je ne reviendrai peut-être pas sur le texte qui a déjà été présenté par M. Hoffmann, mais il s'agira pour moi plutôt de détailler le contenu même de ce texte. Dans un second temps, j'exposerai la doctrine des koinai en noai. J'essaierai de distinguer de la doctrine des noms sur le nom des dieux qu'on trouve dans le Cratyle. Et dans un troisième temps, j'essaierai de proposer une manière de comprendre de manière systématique ce traité qui pourrait sembler à la lecture, on va dire, assez improvisée dans, dans le choix des textes qu'il lit ensemble pour constituer un ensemble de notions. Reprenons donc au début le traité des attributs divins. Cela a déjà été dit au chapitre 2 du premier livre de la théologie platonicienne. Je vous renvoie ici au texte 2 de votre exemplaire. Proclus présente le plan de son ouvrage et les trois parties qui le constituent. La première partie, je ne lirai pas le texte, il a déjà été commenté par M. Bourg. La première partie est consacrée à l'étude de ce que le père Sartre et Vestérène appellent le traité des attributs. Elle occupe la deuxième moitié du livre 1 de la théologie platonicienne, du chapitre 13 à 20. Pour ce qui est de la partie qui nous intéresse, nous retrouvons une autre description de ce traité, de cette partie-ci, au chapitre 13. À 59, lignes 8 à 12. C'est le texte 2 et 3 qui sont finis. Nous apprenons que ces dogmata se retrouvent dans tous les mondes divins, raison pour laquelle ils sont communs et peuvent être étudiés pour chacun des degrés de la hiérarchie des êtres. Notons au passage la présentation des doctrines de Platon, qui sont à la fois simples, hiéroplatone dans le texte, et étudiées, kataten, teleotaten, epistémen, selon la science la plus aboutie. Dans le sens la plus parfaite. Pour Proclus, il s'agit là du quatrième mode d'exposition, différent du premier mode, qui vise à révéler les principes divins au moyen de symboles, correspondant à la méthode d'Orphée, vision distincte aussi du second mode, qui se sert d'image, mode proprement pythagoricien, distinct enfin du troisième mode, qui est celui qui, d'une manière vivement inspirée, révèle au sujet des dieux la vérité en elle-même, se voit surtout chez ceux qui tiennent le rang d'exposé dans la séparation des mystères. C'est le mode proprement cadré. Il y a enfin le quatrième mode, présenté ainsi par Proclus. Enfin, le quatrième mode d'exposition, le mode scientifique, est spécial à la philosophie de Platon, car Platon est le seul, me semble-t-il, de tous ceux que nous connaissons, qui a entrepris d'établir des distinctions correctes et de former en bon ordre et de marche la procession ordonnée de toutes les classes divines et leurs différences mutuelles, les propriétés communes à tous les ordres et celles qui sont particulières à chacun. Nous le voyons, il s'agit ici précisément de présenter une doctrine concernant l'être même, l'essence plutôt, la nature même des dieux. Une question pourrait s'imposer eu égard au choix d'organisation du traité par Proclus. Pourquoi parler en premier de ce qui est commun? Pour le justifier, Proclus donne un principe qui pourrait rappeler d'une certaine manière celui d'Aristote au début de la physique. Ce qui est commun et par nature est plus connaissable que ce qui est propre. Taga, koina, ton, dion, protera, cagnobire. Norimotera, Kata, Fussi, Esti. Donc, théologie platonicienne, 59, ligne 12 à 13. Oui, c'est bon, je les ai mis à la toute fin du texte 3. Là où ce qui, chez Aristote, était commun, était premier, plus connaissable pour nous que le singulier, que le particulier connaissable, plus connaissable par nature, nous avons chez Proclus une assimilation des deux ordres. Et il conviendra donc de s'interroger sur le sens de ce Kata, Fussi, chez Proclus. Passons maintenant à l'exposé des différentes parties du traité des attributs divins, après avoir montré précisément que ces attributs sont censés être répartis selon un ordre scientifique correspondant à leur domaine de la doctrine platonicienne. Les différentes parties du traité des attributs divins sont au nombre de 7, présentant chacun un à trois attributs. Évoquons-les brièvement. Tout d'abord, au chapitre 13, Proclus présente les démonstrations des lois qui ont la préséance sur toutes les autres, à savoir l'existence des dieux, to einai tous theus, theus, il est des dieux, la providence à l'endroit de tous, to pronoiai pantoun, l'inflexibilité de ces dernières, to kata diken, ta panta agen, kame, kaime demian, ekton ke honun, este kestai, paratropon. On peut déjà noter que pour deux d'entre eux, nous avons des verbes et non pas des noms. Donc, la catégorie grammaticale, c'est assez intéressant de voir que ce qu'on pourrait appeler attribut implique aussi finalement l'être, la copule, notamment dans les dieux, mais aussi l'être, cet être-ci est un sens existentiel et non pas la copule. La démonstration de chacun de ces trois attributs va occuper les chapitres 14 à 16 du premier livre de la théologie platonicienne. Viennent ensuite quatre conclusions de la tirée de la République. Conclusion à partir desquelles Proclus distingue une nouvelle triade de notions, à savoir la bonté, l'immutabilité et la vérité. Au chapitre 17, Proclus présente l'articulation de la triade tirée de l'exégèse des différentes conclusions de la République avec celle du livre des lois. Je reviendrai plus loin sur ce texte qui a bien des égards, mais sont fondamentaux pour comprendre l'articulation les différentes notions les unes avec les autres. La bonté, ou plutôt le fait que les dieux soient cause de tout bien et innocents de tout mal, occupe le chapitre 18. L'immutabilité, to amitabletum to theo, est travaillée, me semble-t-il, en deux temps, le concept de vérité, comme le laisse entendre la répartition des chapitres proposés par Saffré et Westermann. Ceci dissocie, en effet, l'analyse de l'immutabilité, étudiée au chapitre 19, de celle de la simplicité, to apun, étudiée au chapitre 20, qui va être plutôt placée à côté de celle de la vérité, étudiée donc, respectivement, pour l'un et l'autre, au chapitre 20 et 21. Plusieurs indices permettent plutôt du contraire. D'un point de vue conceptuel, la simplicité étudiée au chapitre 20 par Proclus n'est pas l'opposé, on ne soit pas comme l'opposé de la duplicité, auquel cas elle pourrait en effet se rapporter à la vérité. La simplicité, au contraire, consiste en ce que le divin n'admet pas en lui la variété, la multiplication des formes et le changement de l'apparence dans les apparitions. Au contraire, il est caractérisé par l'unicité de forme et donc cette simplicité. Chacun des dieux demeure simplement dans la forme qui lui est propre. Une citation de la République. De mémoire, nous pouvons dire que le rapprochement de ce passage avec le commentaire de Proclus à l'invité, commentaire dont on tirait cette notion, indique bien effectivement qu'il faut les rapprocher. L'immobilité implique deux choses, conformément à la théorie du mouvement. Primo, ne pas être mu par un autre, c'est l'immobilité aristotélicienne. Secondo, ne pas être mu par soi-même, ce qui implique, la théorie aristotélicienne, de ne pas avoir en soi une partie motrice, et donc, par voie de conséquence, ce qui implique d'être simple. La simplicité dont il est question n'a rien à voir, comme je l'ai dit, avec une quelconque duplicité au sens moral, mais c'est une simplicité qu'il faut comprendre au point de vue de la composition, simplicité qui interdit toute émotion. Par ailleurs, nous disposons de quelques indices textuels allant de ce sens. Tout d'abord, l'immutabilité et simplicité sont cités et rapprochées par Amphotéra au début du chapitre 19. Il n'est pas fait état de la vérité. Nous les trouvons également rapprochés par le verbe prostitésime au chapitre 20. Enfin, la transition avec le concept de vérité étudié au chapitre 21 indique bien un changement de sujet. Je ne montre pas plus dans le livre. Viennent ensuite l'examen des trois attributs tirés d'une proposition de Socrate dans le Phèdre, 246 des mythes E1 de Platon, à savoir que le divin est agathon, sophon, kalon, bon, savant et beau. Cette analyse occupe les chapitres 22 à 25. Chacun des cognats homologimata est analysé et divisé lui-même en une triade, obtenue à partir de différents dialogues de Platon. Une question se pose relativement à ces sous-triades prédominées. Sont-elles, elles aussi, des composantes essentielles de la divinité, au même titre que les premières, ou sont-elles seulement des déterminations des concepts de bien savant et bon ? Enfin, au chapitre 25, nous avons une analyse de la triade cadéique, Eros, Aletheia, Pistis, étudiée à plusieurs reprises par M. Proclus. Les chapitres 26 et 27 sont l'occasion pour Proclus de traiter de deux triades issues l'une et l'autre de l'argument de la similitude que nous trouvons dans le phénomène, à savoir, d'une part, que le divin est divin, immortel et intelligible, et d'autre part, unitaire, indissoluble et identique, et sans la soi. La première triade est étudiée au chapitre 26, la seconde au chapitre 27. Enfin, il y a les deux derniers chapitres qui semblent radicalement différents des deux autres. D'une part, il ne propose pas au lecteur une triade chacun, mais plutôt chacun d'attributs, à savoir d'une part le caractère inengendré de l'existence des dieux pour le chapitre 28 et des non-divins pour le chapitre 29, chapitre qui clôt l'analyse des non-divins. D'autre part, et de manière plus radicale, leur présentation ne laisse pas voir ce en quoi ceux-ci sont des attributs. En effet, autant on peut rapprocher l'existence des dieux d'un attribut, autant le fait que le caractère inengendré de l'existence et surtout des non-divins, pourraient être constitués, me semble-t-il, des sujets à part entière. Or, il n'en est rien. Proclus les étudie au même titre que les autres comme des notions se rapportant au divin. À première vue, nous pouvons dire que les différents chapitres présentent une unité thématique à trois exceptions près, qu'il nous faudra reprendre par la suite. À savoir, d'une part, l'intégration de la triade cadéique, qui ne se rapporte pas aux dieux, mais aux âmes qui se convertissent par le biais de ces vertus apologiques vers Dieu. D'autre part, l'intégration des sous-triades, désolé pour ce terme qui n'est pas très élégant, mais je ne vais pas trouver autre chose, du fait au nombre des attributs divins, qui n'est pas évident, et il faudra en étudier plus en détail les termes. Enfin, le statut de ces deux derniers chapitres nous semble promettre. Avant d'en venir à cette analyse, nous voudrions présenter les sources du traité et montrer en quoi elles rendent l'articulation du traité des noms divins problématique vis-à-vis du préambule méthodologique des premiers chapitres de la théologie platonicienne. Pour les sources du traité, nous avons dans l'ordre, pour les premières triades, les lois, deuxième triade, les règles de la République, troisième triade, le FED, qui ne décompasse pas les triades, quatrième triade, jointe à la troisième, la source sont les oracles catholiques, le Phédon pour la cinquième et la sixième, enfin l'inengendré, le caca inengendré, lui, n'a pas de source platonicienne, et enfin, huitièmement, le cratique pour le dernier chapitre. Nous devons ici noter deux choses. Tout d'abord, le grand absent de ces sources est le Parménide, alors que l'on pourrait s'attendre à ce que celui-ci soit davantage sollicité que les autres, dans la mesure où il y a le dialogue fondamental pour la théologie. On pourrait s'attendre à ce que, au moins à titre premier, les noms divins, les êtres divins figurent dans ce traité. Il n'en est rien. La suite, pourtant, est suffisamment éclairante pour donner un sens, justement, au fait que Proclus utilise de préférence les autres dialogues de Platon plutôt que le Parménide. Donc, c'est page 32, ligne 1 à 12, qui va être le texte 5 normalement.
Oui.
C'est ça. Ainsi, le Parménide, chez l'amour de Platon, allume la parfaite et totale lumière de la théologie. Après lui, les dialogues déjà cités se distribuent entre eux des parties de l'initiation au mystère divin. Et tous les dialogues, pour ainsi dire, ont part à la sagesse divinement inspirée et révèlent les pensées des innées que nous portons en nous au sujet du divin. Oui, il faut rapporter le nombre total de dialogues à ceux que l'on a déjà cités. Et cela, à leur tour, les recueillir dans l'unique et parfaite théorie du Parménide. En effet, je crois que c'est de cette manière que nous rattacherons l'imparfait au parfait et le particulier universel, et que nous montrerons que les dialogues, puisque les discours ressemblent aux réalités dont ils sont les interprètes, comme le dit Timée chez Platon. Ce texte-ci est particulièrement crucial pour comprendre l'articulation en fait, entre les parties 13 à 29 et ce qui précède. En effet, après avoir montré, en répondant à l'objection du chapitre 6, que le Parménide est le dialogue central pour comprendre ce que c'est que la théologie, pour allumer la parfaite et totale lumière de la théologie, viennent ensuite aux autres dialogues qui permettent, je dirais de manière trop pédagogique, de préparer cet accès au divin en réveillant en nous ces notions, ces koina dogmata, qui sont précisément l'objet des parties 13 à 29. Aussi, si Platon, si Proclus ne cite pas le Parménide, ce me semble être surtout précisément pour provoquer cette réveillée et montrer ensuite que le Parménide finalement va pouvoir se rattacher à toutes ces notions communes. Ce qui supposerait, à titre d'hypothèse, que le Parménide soit, je reviendrai là-dessus à la fin, soit en fait la structure cachée de ces chapitres du 13 à 29, structure cachée qui permettrait d'articuler toutes les notions les unes avec les autres. Donc, si Proclus ne cite pas le Parménide, c'est afin de répondre à la question du chapitre 6. Proclus vous montrait que la science théologique peut s'établir à partir de l'exégèse de tous les dialogues de Platon dans leur participation au Parménide. Ne pas utiliser le Parménide relève donc d'un coup de force exégétique, justifié par la radicalité de la réponse à l'objection du chapitre 6. Par ailleurs, l'ordre des traités ici, tout à fait, c'est autre chose qui peut être notée, c'est la deuxième difficulté, l'ordre des traités proposés dans l'articulation des différents textes est tout à fait différent de ceux exposés dans le chapitre 5 de la théologie platonicienne livre 1. Nous y trouvons en effet les ordres suivants. Premier ordre, donné page 24-25, je ne les ai pas donnés. Nous avons premièrement les dialogues qui nous manifestent le plus l'initiation au mystère divin. Le Phédon, le Phèdre, le banquier, le Philèbre, le sophiste, le politique, le cratide et le timé. Ces dialogues sont pleins de la science divinement inspirée de Platon. Au deuxième rang, ce qui est d'ordre du mythe, le Gorgias, le Protagoras, les lois et le livre 10 de la République. De troisième ordre, les lettres. Suivant, ensuite, nous avons un autre ordre qui se correspond à l'ordre des degrés de la hiérarchie des êtres, l'ordre mythologique. Nous avons le filet qui donne la connaissance de l'âme bien, les deux principes tout premiers, celle de la fête qui se révèle à partir de. Dans le timé, nous trouvons la doctrine des dieux intelligibles, exposée sur la monade démiurgique des dieux anthrosmiques, le fait être des dieux intelligibles et intellectifs, et des dieux hypercosmiques, le politique de la démiurgie opérée dans les cieux, le cycle de la vie de l'univers et de ses causes intellectuelles. Enfin, le sophiste, très humain, culinaire. Il appert, quand on compare ces deux ordres à l'ordre même du traité des attributs divins, qu'il y a une radicale différence. Celui-ci ne semble pas imposé donc, à la hiérarchie des dialogues de Platon, mais semblerait plutôt, eu égard à ce que j'ai dit, qui était dit précédemment sur le terme de à la hiérarchie des principes. Nous pouvons donc faire cette hypothèse que nous avons une hiérarchie qui est présidée non pas par un principe matériel qui serait les dialogues, mais plutôt par un principe formel qui serait les degrés de la hiérarchie des dieux. J'en viens à la deuxième partie qui consiste à éclairer le statut de l'attribut et du nom. Avant d'aller plus avant, une précision conceptuelle s'impose quant à ce que l'on entend en parlant de nom divin. Cette expression ne semble pas coïncider parfaitement avec l'expression grecque. Lorsque nous parlons de nom divin, nous entendons pas seulement les noms propres d'une tradition religieuse donnée aux différents dieux, mais nous entendons également les attributs, c'est-à-dire les différentes perfections que l'on peut donner aux dieux. En effet, souvent en cela, la tradition dionysienne peut opérer un renversement noté par le père Nietzsche. Cette précision est de taille. Selon que l'on prend l'acception au sens strict ou l'acception au sens large, sur le cas, notre sujet se limiterait donc soit considération du commentaire du critique de dernier chapitre de la théologie platonicienne, chapitre 29, ou bien au chapitre 13 au 29 du maître ouvrage du dialogue. Le grec de Proclus ne semble pas connaître ce problème. En effet, ce dernier semble plutôt utiliser plusieurs termes pour parler de ce qui semble ou ce qui est différent, de ces différentes qualités. Nous avons d'une part l'expression des notions communes, connaît et nouvelle, dont nous allons préciser le sens, et d'autre part les noms divins, tonomaton, tonomaton, talomaton, tatoya. Noms divins pourront parler. Ceux-ci sont de plusieurs natures. En effet, si Proclus parle de noms que Platon nous a transmis, nous avons peut-être plusieurs noms divins, et nous avons même des noms concernant la cause ineffable, à savoir le bien et le mal. Je vous renvoie ici à la théologie platonicienne, au livre 2, chapitre 6, où il parle précisément de ces noms de l'un qui est pourtant ineffable. Nous avons ensuite les noms des êtres divins, tononaton, tonteion, qui deviennent à la fin du texte les noms divins, tonteion, tononaton, et qui sont les noms propres du monde. Un détour par le livre Thrace nous permettrait de comprendre ce statut du nom qui semble à de l'onoma, qui semble à la frontière précisément entre le nom propre et le nom commun. En effet, dans l'hexagrammaire, on dit les phrases précises que le nom est une partie de la phrase casuelle, désignant un corps ou une action, qui s'emploie avec valeur commune ou particulière. Commune, par exemple, homme, cheval, particulière, par exemple, phrase. Selon que la substance décrite est une substance simple, nous aurons donc un nom propre, à l'instar de Socrate, et si la substance est composée, nous allons, pour le décrire, avoir un matériel actif qui est le nom commun. À ceci se rajoutent effectivement d'autres lois concernant l'attribution, à savoir que le nom peut être attribué en tant qu'un peu donné, non pas comme sujet, mais comme attribué en tant que serait une épithète, montrant bien ce caractère copulatif permettant de préciser la nature même du Dieu. Pour commencer, je voudrais préciser le sens que cela peut avoir d'attribuer un nom qui soit propre au commun ou Dieu chez Proclus. Proclus, dans son commentaire du Cratyle, va distinguer deux types de noms, ceux des réalités mentales qui ne soient pas intéressants, et ceux des réalités immortelles. Ces dernières seules sont sources de connaissances, car il y a une connaissance pour les dialogues et de l'éternité. Donc, nous allons avoir plusieurs noms. Nous allons avoir plusieurs noms pour décrire les êtres divins. Nous allons voir tout d'abord les noms, je vous renvoie ici au dernier chapitre du premier livre de la théologie platonicienne. Nous allons voir les noms qui sont du premier degré, tout à fait propres et réellement divins, qui doivent être considérés comme établis au niveau des dieux eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont des noms que les dieux se donnent eux-mêmes. Ensuite, nous avons les noms du second degré qui existent au niveau de l'intellect, qui sont comme des similitudes des noms du premier degré et qui ont un statut d'ennemi. C'est donc par conversion de l'intellect vers les dieux à proprement parler, que l'intellect se dote de noms qualifiant cette nature divine qui participe des noms vivants, des noms proprement divins, et qui permet d'éclairer un peu ce qu'ils sont. Nous avons enfin les noms du troisième degré qui sont en dessous de la vérité, qui sont produits au niveau du discours, en recevant à cet ultime niveau une apparence des êtres divins. Nous dirons qu'ils sont révélés par des spécialistes agissant tantôt sous inspiration divine, tantôt de manière intellectuelle, et mettant au jour des images mobiles de leur vision aux intérieurs. Nous le voyons ici, c'est surtout au troisième degré que semble être le niveau des noms divins que nous propose la théologie de la catholicienne, à savoir des noms qui sont inscrits dans un discours scientifique qui se construit en proposition, ce qui implique donc la structure du discours, qui implique la structure discursive dans laquelle ces noms s'insèrent. Nous allons ensuite avoir une exposition dans ce passage-ci du mode de production de ces noms divins. C'est le texte 6. Car, de même que l'intellect démiurgique peut venir à l'existence dans la matière des apparences des formes toutes premières qui contiennent, produit des images temporelles de l'œuvre éternelle, des images divisibles, des êtres indivisibles, et des êtres aidant être des images qui ont la consistance de l'ombre. De la manière, je pense, notre connaissance scientifique est aussi qui prend pour modèle l'activité productrice de l'intellect, fabrique au moyen du discours des similitudes dans toutes les autres réalités, et en particulier des deux eux-mêmes. En effet, en eux, ce qui est sans complexité, elle le représente par du complexe, ce qui est simple par du divers, ce qui est unifié par de la multiplicité, puisqu'elle produit les noms de cette manière-là, notre connaissance scientifique les présente à cet ultime niveau comme des images des êtres divins. En effet, elle produit chaque nom comme une statue du Dieu en vue de l'illumination de statues protectionnées artificiellement. De même aussi, la connaissance intellective relative aux êtres vivants, par des compositions et des divisions de sons articulés, révèle l'être caché des dieux. Nous le voyons, notre connaissance scientifique est discursive, ce qui paraît comme proprement divin, c'est-à-dire unifié, et en quelque sorte désarticulé, enfin particulé, en plusieurs moments décomposés au sein d'une proposition qui donne tout son sens. À partir de là, nous pouvons avoir de manière verticale, non plus des noms à proprement parler, mais des attributs. Des attributs qui sont loin au sujet de la phrase par la culture. Et ce, même pour les noms, pour les dieux d'un degré de réalité supérieur, c'est-à-dire d'un degré de réalité qui sont ineffables. En effet, l'un peut recevoir des noms, l'un le bien, et les dieux intelligibles également. Et en effet, ce n'est qu'à partir, selon la typologie de Proclus, dans le commentaire du Cratyle, ce n'est qu'à partir du dernier des dieux intelligibles, dieu intellectif parmi les dieux intelligibles, Phanès, que peut s'exprimer cette divinité. Et enfin, dans le registre des dieux intelligibles et intellectifs, et enfin des dieux intellectifs, on peut nommer, on peut exprimer la nature de Dieu. Donc, si les dieux sont inévitables jusqu'au dernier degré des dieux intelligibles, qui est lui-même intellectif, celui-ci, le dieu intellectif parmi les dieux intelligibles, permet de faire la jonction avec les dieux intelligibles et intellectifs qui sont exprimables. Ceci semble indiquer que l'on ne peut attribuer un nom au dieu qu'à partir de ce degré. Pourtant, comme il a été dit, nous pouvons imposer des noms à l'un. Le l'un et le bien. Ce qui est intéressant en exégèse pour le nombre 6, c'est que 1 va être décomposé en epsilon nu, donc en deux lettres, pour caractériser l'un, et à partir de là, il y a une dualité qui semble s'inscrire par le nom dans l'un lui-même, montrant par là la difficulté que l'on peut avoir à nommer l'ineffable, compris dans son unicité. Le dernier chapitre, une dernière précision concernant cette réflexion sur le nom divin, celle-ci va être rattaché au traité des attributs divins grâce à l'hypothèse du parménide, au texte 7. De fait, dans le Cratyle, c'est tout spécialement à propos des êtres divins que Socrate estime devoir montrer que les noms ont été correctement établis. Quant à Parménide, dans la première hypothèse, de même qu'il nie de l'un tous les autres objets de connaissance et toutes les sortes de connaissances, de la même façon, il nie aussi de lui le nom et la description, tandis que dans la deuxième hypothèse, en plus de tout le reste, il établit aussi qu'il y a une description et un nom pour l'une de ces hypothèses. Nous le voyons par là, ce n'est pas par incidemment que Proclus propose cette réflexion sur le nom divin à toute fin de son traité des attributs divins. En effet, celui-ci permet de clore, au moyen de cet artifice de l'hypothèse du Parménide, de clore la liste des attributs divins, semblant indiquer par là qu'il y a une réelle continuité, un ensemble homogène dans cette doctrine. J'en viens maintenant à différentes expressions qui permettent une présentation de différentes expressions permettant de qualifier les attributs et les noms divins. Nous abordons cela qui dit Tacona Panta Noemata Periterum. Ce terme, donc, qui apparaît 166 fois dans toute l'œuvre de Proclus, désigne ce qui est passé, qu'il s'agit d'une conversation sensible de les pensées. En philosophie, il désigne plus spécifiquement la pensée, le concept par opposition à la sensation. L'expression apparaît pour la première fois en première partie, page 9-9, en présentant, il s'agit de présenter les doctrines qui se traitent, la musteca petonte, le climas à la liberté et le mata. Ils sont qualifiés, ces noèdes, ces notions sont qualifiées de lumineuses, e-agestera, d'irréfutables, anélectes, analecta. Elles ne sont pas le propre de Platon, en effet, comme on peut s'y attendre, parce que les nomadas sont souvent associés à Platon. Pythagore est lui aussi avoir eu de nombreuses admirables pensées, c'est l'expression par laquelle ça fait les cinq traduisent le mata, on pourrait dire tout aussi bien notion. Nous les trouvons, en effet, ces notions diffusées dans l'ensemble des dialogues de Platon, non pas tant de manière directe, mais de manière indirecte, comme par accident, en effet, la fin première du dialogue de l'archéologie au politique, notion théologique ne s'offre que pour aider à sa découverte et son perfectionnement. C'est donc incidemment que ces notions sont disséminées dans le texte, et il faut se livrer, comme le dit Proclus, à une réelle chasse aux notions pour les retrouver. Ces notions semblent aussi avoir un ordre entre elles. Machin, en fait, nous avons une expression catafusine indiquant bien l'idée d'un ordre pour y avoir entre les sans proposition. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un texte de Jean-Philippe. Tout le monde sait donc à propos du fait qu'il y a des dieux qui exercent surtout de leur providence, ils font tout ce qu'ils font proprement à la justice, et ils ne se laissent aucunement détourner de ce chemin par moi d'ailleurs. Il est dit que tout le monde sait que ce sont là des doctrines, plus que tout autre, son principe en théologie. Elles sont donc extrêmement capitales, elles sont donc les premières raisons pour lesquelles d'ailleurs Proclus les cite en premier. Nous avons bien là cette idée d'ordre entre, qui serait établi entre ces premières notions qui sont les plus capitales, en effet, pour pouvoir parler des dieux encore plus s'assurer de leur existence, et qui s'acheverait effectivement par les derniers éléments de de l'hypothèse du Parménide concerne effectivement les noms divins, le fait que les dieux soient puissent être nommés. Le 59 le ministre. Ensuite, nous avons d'autres expressions, à savoir axiomata, dogmata, superasmata et même nomos. Axiomata, le terme d'axiome, va être utilisé à plusieurs reprises, 132 fois dans le corpus proclusien. Pour ce qui est de la théologie platonicienne, son usage apparaît dans les titres de chapitres à propos des conclusions de la République. Il désigne des affirmations et se distingue en cela des dogmatas qu'on peut simplement nommer qui feraient. En effet, en tant qu'affirmation, on n'aurait pas besoin d'être démontré, il faudra un statut distinct, semble-t-il, des dogmatas. Nous avons ensuite les dogmatas. Nous avons ensuite le terme de dogmata pour le qualifier. Le plus intéressant par rapport à l'idée d'axiome, le fait que ce puisse être aussi des conclusions, superesmata, semble indiquer que cela fait l'objet d'un raisonnement. Et en effet, dans le texte de Platon, les notions sont souvent produites par un effort rationnel de Socrate, sous la plume de Platon, qui exige finalement ces notions. Raison pour laquelle ce terme de conclusion peut être utilisé. Et en fait, cette conclusion semble plutôt la fin d'un raisonnement inductif, entre guillemets, d'un raisonnement, peut-on dire, permettant de susciter la réminiscence, bien plutôt le dialogue. Et en fait, cette conclusion d'un raisonnement se révèle en fait un axiome dans un sens qu'il va falloir préciser. J'en viens à la doctrine des koinai en noai chez Proclus dans la tradition antérieure et postérieure. L'expression koinai en noai apparaît dans un fragment du Protocrite d'Aristote. Nous retrouvons à plusieurs reprises dans les fragments de Critique et d'autres auteurs sollicités. Et l'expression apparaît une seule fois chez Lévi. L'expression donc, de Koinai et Noël semble d'abord et avant tout sollicité. Nous la mais la définition que nous avons proposée est tirée de Salustios, de son ouvrage des dieux et du monde, où il écrit, c'est les premières lignes de son traité, ceux qui désirent s'instruire sur les dieux doivent dès l'enfance être bien dirigés, ne pas être nourris de folles croyances. Il faut aussi qu'ils soient naturellement bons et sensés, pour qu'ils aient quelques ressemblances avec les enseignants. Il faut enfin qu'ils connaissent les notions communes. Communes sont les notions sur lesquelles tous les hommes, si on les interroge correctement, tomberont d'accord. Par exemple, que tout lieu est bon, qu'il est impassible, qu'il est immuable. Deux choses sont adoptées ici. Premièrement, les notions constituent un travail propédeutique à l'activité théologique à proprement parler, à savoir que l'activité théologique, en fait, continue dans les livres 2 à 6 de la théologie platonicienne. Le livre 1 est, pour dire, un prologue visant à préparer les bases de la réflexion théologique. Deuxièmement, celles-ci, ces notions sont communes à tous les hommes et elles concernent en propre la nature de Dieu. Chose intéressante, ces notions doivent être connues. Or, il n'est pas précisé leur statut dans l'intellect. Sont-elles à démontrer ou sont-elles simplement à révéler ? En fait, les notions des dieux sont des notions innées. Cicéron est un traitement crucial dans cette doctrine des idées communes. Il parle de Deorum Notio, comme son dénominatoire Deorum, et il va en donner les propriétés suivantes au paragraphe 44 de son traité, de son dialogue. Puisque ce n'est point une opinion qui vienne de l'éducation ou de la coutume ou de quelques lois humaines, mais une croyance ferme et unanime parmi tous les hommes, sans un seul excepté, c'est donc par des nations empreintes dans nos âmes, ou plutôt innées, que nous comprenons qu'il y a des dieux. Or, tout jugement de la nature, quand elle est universelle, est nécessairement vrai. Il faut donc reconnaître qu'il y a des dieux. Et puisque savants et ignorants s'accordent presque tous là-dessus, il faut donc reconnaître aussi que les hommes ont naturellement une idée des dieux, ou comme j'ai dit, une prénotion. Que fait ce mot à l'exemple d'Épicure, puisqu'aussi bien ne saurait-on exprimer de nouvelles choses que par des termes de Dieu. Sur ce même principe, nous jugeons que les dieux sont immortels, souverainement ou non. Une notion commune pourrait rappeler, en quelque sorte, pourrait-on dire, le sens commun tel qu'on a pu le comprendre dans l'école écossaise et par la suite dans la néo-scolastique soliste du XIXe siècle. Il s'agit d'un sens commun capable de produire un consensus. Son consensus qui apporte premièrement et avant tout sur les dieux. C'est sur la base de ce consensus que la théologie s'appuie en ses principes les plus fondamentaux, à savoir il y a des dieux. Ces nations sont en nous, en nos âmes, comme le souvenir des dieux, de leurs existences et de leurs différents attributs. Cette connaissance, pour te dire, de la nature des dieux, est une prénotion, une connaissance comme intuitive, un souvenir de cette divinité. En effet, nous retrouvons un certain nombre d'expressions sur la partie profonde pour désigner ces connaît et maïs, à savoir. Comme on connaît le Nata, Polygas et Noia. Ces notions, nous avons dit, sont connues comme innées, autofuelles, antérieures à tout enseignement, adiactol et non permis, adiastrophol. Ce qui signifie qu'elles subsistent même dans l'âme la plus dépravée. Nous allons passer au commentaire sur de la République, en affection de Pestugère, le texte biblique, dans lequel précisément est précisée la nature de ces notions et leur caractère pour les grandir en tout. Résistant même à l'injustice. De toute façon, donc, quelque action qui se produise par le fait d'injustice, il faut que l'agent ait eu une part à la justice. Et même si tu prétends l'état pire que celui-ci, où la raison est désormais aveugle et où la faculté appétitive a été évacuée, cet état-ci est à juste titre sans action, puisque la justice est complètement affaiblie, au point de sembler n'exister même plus. Car la justice existe de quelque manière, dans la mesure où il est impossible que l'âme abandonne entièrement les notions communes, et surtout à cause de l'aspiration au bien. Dans la mesure donc où l'âme tend au bien, elle participe de la justice. Si, en effet, pour une âme, l'injustice était devenue totale, cette âme pourrait bien avoir perdu jusqu'à l'être, car un corps aussi périt quand il est tout entier tombé malade. Il faut donc que, même dans le cas de la plus extrême injustice, il reste dans l'âme individuelle aussi quelques traces de justice, grâce à laquelle elle se conserve quant à son être. En sorte qu'il y ait de toute façon dans cet âme un dissentiment, puisque l'âme est pour ainsi dire tout entière en lutte contre les notions communes établies en elle. Mais cet état de l'âme est sans action, parce que, comme la trace de la justice a été affaiblie, elle a fait qu'il n'y a plus là, pour ainsi dire, que l'injustice. L'injustice qui est réduite à elle-même ne peut qu'en faiblesse rien. Nous le voyons, il y a une capacité, pour dire, de résistance des idées, des notions innées dans notre âme, raison pour laquelle celles-ci ne sauraient être détruites en raison, car elles sont, elles constituent, pour être jusqu'à l'être même, notre être même. La disparition de ces notions signifierait la disparition de notre être lui-même, c'est-à-dire l'impossibilité même de se convertir au lieu de nous posséder. Aussi, il y a donc une nécessaire réalité de ces notions, une réalité par laquelle le monde se substitue. Une chose qui mérite d'être notée, on pourrait faire un parallèle entre ce qui est dit par Denis et Robert, un principe fondamental, notamment par en anthropologie médiévale, que les naturalia, permanent intégra. En effet, même si la nature est corrompue par le péché, de la même manière, les capacités naturelles, les facultés naturelles restent quant à elles restent encore présentes, même si elles peuvent être amoindries et peuvent entraîner par le péché. Nous avons donc une structure commune par laquelle finalement, qui se comprend de manière relative vis-à-vis du problème du mal, et qui en permet une compréhension. Comment le mal subsiste, enfin, le problème de l'existence du mal, en le résolvant précisément en donnant. On voit que le mal réside toujours sur un mur. Il y a ici un parallèle qui va creuser, on pourrait l'établir plus sérieusement. Ces doctrines, ces ennoyas, connaïs et ennoyas, se retrouvent dans tous les domaines de la connaissance. Nous les trouvons en théologie, mathématiques, physique, éthique et logique. Plus précisément, pour ce qui est de mathématiques, il fait plutôt référence au terme d'axiomata. Et il semblerait en fait que les deux termes soient plus ou moins équivalents. Parce qu'à plusieurs endroits dans ce texte, en termes de corpus, nous retrouvons Koinai et Noé pour dire axiomata et vice-versa. Parce qu'il indique bien que ces propositions sont par nature indémontrables, sont les actions du monde. Une chose à noter, c'est Koinai et Noé sont-elles communes? Donc, en fait, il y a deux manières de les entendre. Donc, soit on peut entendre en tant qu'elles sont communes à tous les dieux, elles sont valables pour tous les noms divins, comme Catholic, ou alors elles sont communes. En ce sens qu'elles sont communes à tous les hommes. Or, si on lit bien le traité de Proclus, il semblerait qu'il s'agisserait plutôt de Pantacou que d'une communauté qui serait ensemble avec tous les hommes. En effet, c'est essentiellement par le biais de Platon, Platon qui est l'interprète qui a permis tout le monde de provoquer ce ressouvenir des dieux, par le biais de la médiation de Platon, finalement, que ces notions sont restaurées alors que dans un monde qui peut être corrompu par l'injustice. Je peux vous
demander. Oui, je crois que cette affaire-là est très importante parce qu'effectivement, ce qui est frappant dans ce premier livre de la théologie platonicienne, c'est finalement la correspondance qui s'instaure entre, je dirais, une structure psychologique et gnoséologique, c'est-à-dire que dans l'âme non adultérée de tout homme, c'est une proposition d'anthropologie générale, il y a les notions communes relative au Dieu. Alors moi j'ai l'impression quand même que ça veut dire que toute âme rationnelle possède en elle ces notions qui sont en même temps des notions universelles relatives au Dieu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Koinon a un peu la double signification. Et enfin, ce qui est frappant, c'est que ces notions communes qui peuvent être des éléments de, au fond des éléments de proposition. Ça peut être des éléments de proposition, parce qu'il ne faut pas oublier que le discours de la science relève du logos et du diathétos, c'est-à-dire que le discours de la science est structuré selon la loi de la discursivité de l'âme connaissante. C'est pour ça que ça peut être des propositions, des conclusions, des notions qui sont en position de prédicat. Il y a toujours une référence, si je comprends bien, à une proposition attributive relevant d'un logos apophantikos au sens aristotélicien du terme. Bon. Alors on a d'un côté la structure de l'âme humaine en tant qu'elle est rationnelle et compte non tenu de ses éventuelles corruptions. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'au fond, ces mêmes notions, par l'exégèse, par la pratique herméneutique, on va les extraire des dialogues de Platon. Et de ce fait, les dialogues de Platon, de façon un petit peu dispersée, expriment ce qui est le contenu même de l'âme rationnelle dans son universalité. Donc il y a une parfaite correspondance entre, au fond, ce qu'enseigne la psychologie de l'âme rationnelle, au sens qui est au platonicien du terme, et la manière dont on lit les textes de Platon. Alors, ce que vous dites me fait penser à... Non, ce n'est pas du Proclus, mais... Enfin, c'est à la fois chez Proclus et chez Simplicius. Il y a deux textes qui se répondent dans le commentaire au traité du ciel de Simplicius, page 373, quelque chose comme ça, et dans le commentaire, je crois, au premier Alcibiade, commenté par Solon, dans lequel, au fond, les néoplatoniciens avaient l'idée que même dans les âmes de leurs adversaires chrétiens, en quelque sorte aveuglés par des préjugés athées, et je crois que Simplicius doit employer l'expression de athéoi prolepseis, ou quelque chose comme ça. Même dans le cas où une âme est vraiment abîmée par des préjugés athées, subsiste une trace de la vérité. Et c'est à ce moment-là que Simplicius se rappelle des bribes de textes évangéliques. Je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu où il est question du trône de Dieu. Et Simplicius mentionne aussi le psaume 18, hein, où les cieux racontent la gloire de Dieu. Et on trouve dans les textes scripturaires la preuve que même ces âmes-là, très abîmées, participent encore de la rationalité universelle. Et je crois que c'est... Et du coup, en vous écoutant, je me demandais, même s'il y a dans la théologie platonicienne très peu d'allusions au contexte politique, religieux, etc., si finalement un enjeu de cette partie du livre 1 n'est pas quand même un enjeu polémique, c'est-à-dire en contexte, étant donné ce qu'on sait de l'anthropologie néoplatonicienne et la manière dont ils se représentaient les âmes de leurs adversaires, est-ce qu'il n'y a pas là, je dirais, une pierre pour le jardin des voisins, hein. Voici finalement quel est le contenu d'une âme rationnelle qui ne serait pas abîmée, aveuglée par des préjugés. Voilà ce qu'on devrait avoir dans l'esprit, qui correspond exactement à ce qu'on trouve dans les dialogues de Platon. Donc ça, on peut en discuter, mais ça peut être une piste de recherche. Alors, évidemment, le texte du commentaire sur la République est remarquable de ce point de vue-là.
Il me semble peut-être une notion politique, enfin polémique et politique, et surtout en second temps derrière, je pense, un réel projet, enfin, de constitution de l'écologie, comme science, de l'écologie. Il y a plutôt, on a dit, une propédeutique, qui est effectivement en creux, en filigrane, à cette dimension polémique, qui me semble plutôt un effet, par la mesure où le traité, donc, nous avons à aucun endroit une trace de polémique. Mon souvenir n'est pas un seul texte, ceci m'a échappé. Un texte qui pourrait permettre justement d'étayer cette dimension polémique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons la discussion dans les chapitres 6 à 12 sur l'interprétation de la polémique, comment suscite des débats. Et ensuite, par le chapitre 13 à 29, nous avons quelque chose de plus vicieux. Même si peut-être au niveau de la catalyse, il y a le concept de pistis, effectivement, pour eux, c'est vrai.
C'est possible. Il n'y a rien d'explicite, pas vraiment, c'est ça, vous avez raison.
Donc j'en viens maintenant à la troisième partie, donc un essai de reconstitution de la systématique de cette seconde partie du premier livre, à partir de deux hypothèses, une qui paraît de moins en moins pertinente, ça va faire l'hypothèse, la seconde hypothèse par un livre, que j'avais formulée au tout début de recherche. Et une hypothèse me semble plus raisonnable, on va dire, qui est celle que vous avez dans le premier tableau, une seule interprétation à partir de la triade être puissance intellect pour l'intégralité des attributs, à l'exception des deux derniers qui ne peuvent pas être constitués en fait. En effet, l'hypothèse, nous l'avons dit, le premier attribut affirmé des dieux, c'est leur existence. Pour Proclus, cette existence implique plusieurs problèmes, à savoir la providence des dieux et l'inflexibilité de ces derniers. Ils exercent surtout leur providence, ils font tout ce qu'ils font. conformément à la justice. Et il ne laisse aucunement détourner de ce chemin, par leurs inférieurs. Ce sont là trois démonstrations qui occupent les chapitres 14 à 16 de la théologie platonicienne et sont aussi, par-delà les présentations, leur présentation comme problème, des propriétés qui assurément sont communes à tous les dieux et en même temps se situent au tout premier principe et au tout premier rang dans l'ordre naturel de l'enseignement théologique. Page 80, 16 à 18. Ces trois notions démontrées constituent des attributs communs à tous les dieux. Comme Proclus le dit, nous le retrouvons à tous les degrés de la hiérarchie des dieux. Cette triade, et trias, va être articulée à une autre triade tirée des oracles grecs utilisés par Proclus et Damasus à sa suite, la triade Hyparxis, Dunamis, Nous. Cette dernière est le moyen qui permet en fait de fonder en raison de la prédication de la première triade de Dieu. En effet, ce n'est qu'une fois cette triade qui a été estimée dans ses actes établis que Proclus peut dire. On voit en effet que cette triade se trouve répandue de haut en bas, depuis les classes des dieux cachés jusqu'au plus particulier parmi les mondes vivants. Car tous les deux, aussi bien ceux qui se trouvent au-delà du monde visible que ceux qui se trouvent en ce monde, possèdent une existence qui est caractérisée par une puissance qui exerce la providence. Qui exerce la providence à l'égard de tout ce qui est inférieur et un intellect invariable en ici. Et on trouve encore une discussion sur ce passage avec un autre, intitulant donc l'autre triade, celle des oracles, celle qu'on a donnée, celle qu'on a en page 59, 22 jusqu'à la page 60. En effet, qu'y a-t-il de plus capital que l'existence des dieux, leur providence pleine de bonté, leur puissance immuable et indémoniable, attributs par lesquels les dieux produisent. De l'air unifié tous les êtres secondes, les conservent en l'être d'une manière pure et les convertissent vers eux-mêmes, alors que eux-mêmes organisent dans tout le reste sans subir aucune atteinte de la part de leurs inférieurs, et aucun changement venant de la vérité des êtres qui gardent leur providence. En effet, nous avons trois activités, production, conservation et conservation, analysées aux propositions 30 à 35 de l'Énonciation Théologica, actions qui se comprennent elles-mêmes, de production, de conservation et de conversion, par rapport à ces triades fondamentales. À savoir Hyparxis, Dunamis et Nous. Et donc, après cette triade articulée, tout d'abord à cette première triade fondamentale, nous en avons une seconde tirée de la République, qui est fondée à partir de deux lois théologiques, qui ont chacune deux conclusions. Premièrement, les dieux sont croyants de tous les biens et causent aucun mal ou quoi que ce soit. Secondement, ils sont immuables dans leur être, mais doivent relever des formes variées pour traiter en ce sens. Et ne sont être les auteurs par leurs actions et leurs discours du mal le plus grand et le mensonge, même de la divulgation et de la folie. Ce qui nous donne, compte tenu des conclusions, primo, les dieux sont innocents de tout mal, secondo, les dieux sont cause de tous les biens, tertio, tout l'ordre divin est immoral, quarto, il est à l'abri du mensonge et de la relation de l'artificieux. Ces quatre conclusions, vous l'avez vu, vont être réduites à trois notions communes à la cause divin, la bonté, l'immutabilité, à laquelle sont attachées la simplicité et la vérité. Cette triade est articulée à la triade des lois par le biais de la triade triadaïque. Kaga, donc c'est pas de fait, la source toute première et indicible des biens se trouve chez les dieux, et aussi l'éternité, cause de la puissance qui est semblable à elle-même, et encore l'intellect tout premier qui est des êtres humains, c'est-à-dire la vérité immanente aux êtres humains. À savoir la source première des biens, c'est l'être lui-même, l'existence des dieux, l'éternité cause de la puissance identique semblable à elle-même, et encore l'intellect tout premier qui est l'être lui-même, c'est-à-dire la vérité immanente aux êtres réellement être. L'articulation entre les deux triades se fait donc au moyen de cette triade chaldéenne, mentionnée plus haut, compris dans Symphonie avec la triade des. Cette mise en résonance de la triade chaldéenne avec la triade platonicienne nous semble rendue possible d'une part par le même livre. Appartenant en fait à la même structure de pensée que le concept d'Hyparxis et d'Agathotès également, développé comme tel dans l'étude du premier dogme de la République. En effet, Hyparxis va être l'être même des dieux, va être compris comme même la bonté même des dieux, montrant bien que l'on peut lier la triade des lois à celle de la triade de la République. la relation entre nous et Dieu 6, elle semble aller de ce qu'on fait le mieux, c'est le lieu même où il est possible la connaissance. L'articulation de Parcis à la Gazothèse semble se justifier par la première proposition du chapitre 18. N'est-il donc pas nécessaire que ce qui se définit, par le bien sa propre existence et tout ce qui va l'être, qui relie toute chose par son action, soit pourvoyeur de la totalité du bien et de notre monde. Cette première proposition a son intérêt en tant qu'elle associe bonté et existence à l'activité de production par son être même, laquelle est proprement une activité providentielle, justifiant par là l'articulation du deuxième membre de la triade avec la bonté liée à l'existence des dieux, via l'expression auto tonaito einai patenta paradis. Enfin, ensuite, la simplicité est envisagée dans la vie dans la fragilité de l'immutabilité. C'est là le second point de la démonstration de Platon dans la République. Et cette simplicité, ainsi comprise en rapport avec elle-même, l'immutabilité est le lieu et la compréhension même de la société de la puissance des lieux. Je ne reviens pas sur la relation de l'unité à l'intellect. Toutefois, une chose est intéressante concernant la vérité qui peut expliquer le passage de cette triade à la triade suivante, à savoir que la vérité est déjà un membre de la triade et conversif. Aussi, cela inviterait à. Enfin, je vais vous lire le passage. Concernant la vérité. Qui semble indiquer en fait la fonction qu'on peut avoir avec le fait, avec la du fait. Page 100, si tu en as une condition. En effet, comme la vérité immanente aux âmes est conjointe à l'intellect, comme la vérité intellective ramène à l'un tous les degrés de l'intellect, de cette même façon précisément, la vérité des dieux unit les énades divines à la source de tous les biens. Et une fois branchées sur cette source, les énades se remplissent de toute puissance qui porte le caractère du bien. Nous retrouvons ici la puissance qui est le deuxième membre de la triade, qui porte le caractère du bien, premier membre de la triade. Dans tous les cas, en effet, l'existence de la vérité joue le rôle d'une cause qui ramène à l'unité le multiple, aussi bien à la lumière qui dans la République procède du bien, qui conjoint à l'intellect, à l'intelligible, Platon et la vérité. Nous le voyons, ici, la vérité joue un rôle conversif apadogique, que l'on va retrouver dans cette autre triade, qui est la triade des attributs du Phèdre, qui sont, nous l'avons dit, la bonté, la science et par ailleurs la beauté.
Ce sont des adjectifs, hein, c'est agathon, sophon, canon.
Nous avons cette triade, cela expliquerait dans ce sens que la triade soit articulée, comme on l'a vu, à la triade chaldaïque. En effet, la triade, cette seconde triade est une triade apadogique, donc précisément, est censée jouer le rôle de cette conversion vers nous, qui est précisément la troisième action du divin, après l'activité de production, de participation, dans la procession et à l'activité de procession. Et ici, nous allons avoir plusieurs rites qui vont être associés à chacune de ces pratiques, donc sur les trois degrés de la triade chaldaïque. La puissance théologique correspond à la pistis, et donc, on va venir à l'église à la bonté, qui peut se rattacher en tant que bonté, en tant que bon, en tant que quelqu'un qui est bon, se rattacher à la bonté même pour le test de Dieu. La divine philosophie, ici nous voyons avoir une petite rupture par rapport au schéma, enfin la divine philosophie, qui est le moyen qui se rapproche, sous le nom de la science, devrait se rapporter plutôt à la vérité, or saurait rapporter son schéma au deuxième membre de la triade, qui est la puissance. Et enfin, nous allons avoir la poulie amoureuse, qui va être rapportée au beau, et sera trop rapporté, si on voit un peu la mise en échec de ce schéma, sera peut-être rapporté à la dérive. Donc il y a ici une incohérence qui convient de signaler. Et après cette triade, nous allons avoir les deux triades du filon qui vont être attachées l'une à l'autre de manière assez virtuose en disant où cette propuse propose finalement ces galaxies de manière assez légère qui pourrait laisser croire qu'on pourrait tout aussi bien prendre un autre de l'autre. Or, ce n'est pas le cas. En effet, tiré de l'argument de la similitude du filon, Proclus a isolé les arguments convenant au propre de Dieu pour retenir deux triades, divin, immortalité, intelligible d'une part, et d'autre part, unitaire, indissoluble, identique et semblable à soi. Et pour comprendre leur articulation, ils vont être articulés l'un et l'autre à une autre triade platonicienne, la triade de l'être, de la vie et de l'intellect, qui peut, dans certaines mesures, se superposer à la triade de l'être, de la puissance, de l'intellect. Cette triade être, vie, intellect est celle que l'on retrouve notamment dans les noms divins de Denis. Où cette articulation est faite.
C'est pas mieux que de laisser un
peu de temps pour la. Très bien, en ce cas, je vais.
Si en 10 minutes vous pouvez
faire ça,
ça serait formidable.
En ce cas, je passe directement à la suite. Nous avons ensuite l'existence des dieux qui, elle, s'avère vraiment problématique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de structure créative, il ne faut pas vraiment être comprise dans ce schéma, et il en est de même pour les non-divins. J'en viens maintenant à la deuxième hypothèse, qui serait de lire ces recherches sur les attributs divins proposées par Proclus en lien avec l'hypothèse supraménide. Vous avez ça dans le tableau qui est à toute fin de l'exemple.
On ne va pas avoir le temps de détailler.
Non, non, bien sûr. D'ailleurs, vous le savez, nous sommes en problématique de en ce sens, j'étais reparti pour l'établir de Philippe Offray, mais celui-ci avait montré que la triade bon, savant, beau se comprenait au niveau de la triade de l'intelligible. Finalement, j'ai isolé finalement cette triade comme étant le lieu où on pourrait comprendre comme cette triade comme provenant en propre la triade des intelligibles, ce qui conduit en fait à placer nécessairement au-dessus les deux premières triades, être providence, inflexibilité, cette providence au niveau même de l'un, bonté, immutabilité, simplicité, vérité au niveau des énades, sans qu'il y ait aucune justification pour celle textuelle, hein, c'est purement hypothétique. Nous aurons bien pour la triade des dieux intelligibles et intelligibles. Nous avons une similitude, enfin une ressemblance qui pourrait laisser croire qu'on pourrait interpréter cette triade et les triades du Phédon en lien avec cette triade des dieux informatiques. En effet, Dieu immortel, intelligible, Dieu se comprend en effet comme étant participé. En effet, le concept de Dieu prend pour participer divin du divin, tout simplement parce que Proclus distingue le divin en tant que participant et le divin en tant que participé. Raison pour laquelle Dieu, ici, tel qu'il se comprend par rapport à l'intellect substantiel, serait nécessairement un à l'autre. L'immortalité impliquerait un mouvement qui serait propre à lui-même. L'identité, en effet, pourrait s'en interpréter comme étant le mouvement même de l'intelligence. Le fait d'être en soi-même, effectivement, se comprend par l'association du reste et de cet attribut unitaire. Le fait d'être en repos, le caractère indissolu, c'est-à-dire incorruptible. Et enfin, les différents des autres, par opposition, semblent de soi. Cela est fort peu convaincant. Et enfin, nous aurons à la toute fin de la triade, des différentes hypothèses supérieures. Après les parties du temps, l'ami universel, les êtres supérieurs, anges et démons, une dernière catégorie correspondant précisément au monde divin. Mais cette hypothèse-ci me semble, en l'état, me semblerait peut-être retravailler encore. Dans l'état, on ne peut pas, comme ça l'appliquer. Les noms d'indices textuels sont beaucoup trop minces. Une chose est sûre, c'est que les noms divins concluent. Et on a le tir que ça fait de cette somme d'attributs divins par le biais de l'hypothèse du Parménide ou des noms, on cherche sur le nom et la description clôt différentes hypothèses. Sinon, le premier schéma me semble beaucoup plus raisonnable.
Et il pose des problèmes aussi, oui. Le premier schéma.
Bien sûr, mais il me semble plus musette. Ouais, puis...
Merci à vous deux, à Philippe, à Thomas, d'avoir.